Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être
brisé. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler du royaume de Dieu. Vous savez, c'est un thème qui est lourd. On l'a enseigné il y a 2 ans, il y a 3 ans maintenant, je crois, 2 ans et demi, 3 ans. Et il y a beaucoup de nouveaux à l'église qui entendent, vous êtes les bienvenus dans la représentation diplomatique du royaume des cieux, ambassadeur de Christ, etc. Et la conviction que nous avons, c'est que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas de quoi on parle exactement. Parce que simplement, la mentalité de la religion nous a souvent conditionnés, même dans notre manière de penser et d'agir. Que quelqu'un dise Amen. Alors aujourd'hui, et pendant quelques semaines, nous allons parler de ce thème que je vais appeler simplement que ton règne vienne. Que quelqu'un dise que ton règne vienne. Que quelqu'un dise encore que ton règne vienne. Vous savez, la meilleure façon de faire en sorte qu'une prière soit exaucée. Qui a envie de voir ses prières exaucées? Ok, la plupart d'entre nous, pratiquement nous tous, nous voulons que nos prières soient exaucées. Si tu veux que Dieu exauce tes prières, mon frère, ma soeur, prie selon la volonté de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Prie selon la volonté de Dieu, ça veut dire ne demande pas à Dieu ce que tu veux. D'accord, il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Il n'a pas dit, il t'accordera ce que ta bouche désire. Ça veut dire, il y a des choses, c'est même pas la peine de demander. Parce que Dieu les voit dans ton cœur et il sait te les donner. Que quelqu'un dise Amen. Si ton cœur désire, aspire à certaines choses, Dieu te les donnera. Il a dit, prie selon sa volonté. Parce que nous, si nous prions selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons déjà ce pourquoi nous avons prié. Ce que nous avons demandé. Il y a des choses pour lesquelles, en fait, Jésus ne priait même pas. Il arrive, dit Lazare sort. Ça, c'est pas une prière, c'est un commandement. Que quelqu'un dise Amen. Il y a des choses pour lesquelles Jésus ne priait pas. Il disait pas, Père, s'il te plaît, ressuscite Lazare. Il arrive, investi de l'autorité royale, il dit, Lazare, sort. Dieu merci, il a dit Lazare sort. Que quelqu'un dise Dieu merci. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas dit Lazare sort, tous les morts seraient sortis. Alléluia. Si Jésus n'était pas précis ce jour-là, tout le monde sortait. Que quelqu'un dise Amen. Mais il n'a pas prié, il a commandé. Et puis après, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Je n'ai pas prié, je n'ai pas dit ça pour moi. J'ai dit ça pour ceux qui sont autour de moi, afin qu'ils sachent et qu'ils croient. Donc, il y a des sujets pour lesquels on prend pas le temps de. Jésus ne prenait pas le temps de prier. Par contre, il y a une chose pour laquelle il priait. Quand Jésus devait guérir un malade, il ne priait pas pour dire, Seigneur, guéris. Quand il devait chasser un démon, il ne faisait pas comme nous aujourd'hui dans nos églises charismatiques pentecôtistes. On prend la tête de quelqu'un, on lui fait un torticolier, puis on dit démon sort. Démon sort, sort, sort. Jésus n'a jamais crié pour chasser un démon 10 fois. Que quelqu'un dise Amen. Il n'a pas fait autant d'efforts. Et des fois, quand je nous vois, je dis Seigneur, est-ce qu'on est obligé de crier 10 fois pour chasser un démon? J'aspire à grandir et à atteindre le stade où, en Christ, je dis simplement lâche cette personne. Et puis lâche cette emprise. Que quelqu'un dise Amen. Ce n'est pas seulement la responsabilité du pasteur, c'est la responsabilité de tous ceux qui auront cru. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc tu n'as pas, quand il faut chasser un démon, appeler pasteur Jacques. Tu peux l'appeler si tu as besoin d'aide, d'accord, pour qu'on t'enseigne. Mais il ne faut pas que ça dure longtemps. Il faut que tu arrives au stade où le Saint-Esprit est tellement avec toi, il te remplit tellement que quel que soit le challenge que tu as en face de toi, tu dis dans le nom de Jésus, sors, dégage. Montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans la mer. Que quelqu'un dise Amen. Pour le complexe que nous allons prendre, que nous avons déjà pris d'ailleurs, dans lequel nous allons entrer, on n'arrive pas pour dire, Seigneur, nous te supplions, donne-nous le bâtiment. Non. Dès qu'on arrive, on dit, Seigneur, ça c'est pour nous. Seigneur, nous possédons ce pays, nous possédons cet environnement, nous possédons ce territoire, nous possédons ce bâtiment. Dans le nom de Jésus, Père, nous le possédons. Que quelqu'un dise Amen. Donc, si tu veux prier de manière efficace, prie selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu a une volonté, il y a des choses qu'il veut. Et le jour où ce que tu veux est en conformité, en harmonie parfaite avec ce que Dieu veut, alors tu n'as plus de problème. Que quelqu'un dise Amen. Et le message du règne de Dieu, c'est le message le plus important de toute la Bible. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est une introduction, ça va choquer certains d'entre vous. Ça va déranger certaines personnes qui ont beaucoup entendu l'évangile du salut ou de la prospérité. Laissez-moi vous dire, il n'y a aucun évangile de prospérité. Il n'y a même pas l'évangile de la guérison, de la délivrance, ça n'existe pas. Il y a l'évangile du règne de Dieu ou du royaume de Dieu, lequel contient la guérison, le salut, la restauration, la prospérité, selon ce qu'on met derrière le mot prospérité. Alléluia. De tout temps, les nations rêvent de justice. Les hommes qui sont sur la terre, de tout temps, rêvent de justice, de paix, de santé, de bonheur, d'équité, de réussite. Tous les êtres humains aspirent à cet idéal. Que quelqu'un dise Amen. La plupart des êtres humains voudraient pouvoir contrôler les circonstances de la vie. La plupart des êtres humains voudraient pouvoir être au contrôle et ne pas dépendre des circonstances. Tous les hommes qui sont sur la terre rêvent de ça. Tout le monde veut la paix. Tout le monde veut la joie. Tout le monde veut l'amour. Tout le monde veut la justice. Tout le monde veut le bonheur. Tout le monde veut simplement l'accomplissement, l'épanouissement. Et pour répondre à ces, pour apporter des solutions à ces besoins, à ces aspirations, les hommes ont formulé des réponses. Les philosophes ont formulé des réponses. Les gouvernements, les scientifiques ont formulé des réponses. Cependant, la plupart de ces réponses, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais été satisfaisantes. Quelle est la solution des gouvernements, des États? Les gouvernements, pour répondre à cet idéal de paix, de bonheur, de joie, de santé, de prospérité, d'épanouissement, les gouvernements ont inventé, il y a quelques siècles, ils ont inventé par exemple le concept de démocrate, qui est la démocratie. Et ils se sont dit, on va créer un concept, on va créer un idéal, on va créer un idéal dans lequel il n'y aurait plus de guerre, dans lequel le développement économique serait favorisé, dans lequel les peuples pourront eux-mêmes élire leurs dirigeants. Parce qu'à l'époque, c'était la monarchie. Et dans la monarchie, on n'avait pas le droit d'élire les dirigeants. C'était de père en fils. Le père est roi, le fils deviendra roi. Tu n'as pas de mot à dire. Alors, ils ont créé ce concept. Pourquoi, en fait, ils ont créé ce concept? Parce que simplement, ils se sont retrouvés à un vide. Et vous savez, lorsqu'il y a un vide quelque part, quelqu'un va le combler. Parce que la nature a horreur du vide. Ils se sont retrouvés à un vide. Pourquoi? Parce que les religions étaient beaucoup trop occupées à emmener les gens au ciel. Les religions leur promettaient paix, santé, bonheur, justice, guérison, tout. Mais après la mort. Que quelqu'un dise Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les Grecs, qui étaient des grands penseurs, ont commencé à réfléchir et puis ils ont créé ce concept. Et ils se sont dit, si on crée un concept où les pays sont en harmonie, en paix entre eux, il n'y aura plus la guerre. S'il n'y a plus la guerre, il y aura la paix. Et s'il y a la paix, on va pouvoir développer l'activité économique. Mais déjà, ils se sont dit, s'il n'y a plus de guerre, il y aura la paix. Aujourd'hui, en Occident, il n'y a pas la guerre. Mais il n'y a pas la paix non plus. Que quelqu'un dise Amen. Il n'y a pas de guerre autour de vous. Mais comment expliquez-vous que ce pays... Vous savez, lorsqu'on dit qu'il y a 12 000 suicides par an en France, contre 6 000 tués sur la route. Ça, c'est le nombre de suicides. Est-ce que vous avez dit du nombre de tentatives de suicide? Alors, il n'y a pas la paix. Pourtant, il n'y a pas la guerre. Alléluia. Alors, vu que les gouvernements ont échoué, les nations se sont tournées vers les Nations Unies. Et ils ont mis leur espoir dans l'ONU. En espérant que l'ONU pourrait établir sur la terre, un règne de paix, de justice. Alors les gouvernements se sont réunis pour instituer l'ONU. Et l'ONU a créé plusieurs types de programmes. Le PAM, le PNUD, l'UNICEF, etc. Tous ces programmes ont pour objectif d'apporter des réponses, des solutions aux problèmes, aux aspirations de tous les êtres humains. Cependant, l'ONU aussi a ses challenges et ses problèmes. Corruption, endettement, pots de vin, exaction, impartialité, lutte d'influence, conflit. Alors les hommes se demandent, mais finalement, d'où nous viendra le secours? Demande à ton voisin, d'où vient le secours? Alors, devant l'échec de l'ONU, devant l'échec des gouvernements, les nations se sont tournées cette fois-ci vers les religions. Alors ils ont dit aux religions, peut-être vous avez la solution, vous. Alors on est parti voir tous les ismes là, catholiques, hein, tout ça, hein. Catholique, protestantisme, catholicisme, islamisme, tout ça. Bouddhisme, confusionnisme. Et donc, mais tous ces ismes ont un point commun. C'est qu'ils vous préparent très rapidement quand vous leur demandez comment fait-on sur cette terre pour vivre simplement ce qu'on était appelé à vivre dès la création. Pour vivre ce à quoi tu aspires au-dedans de toi, eux, ils vous proposent un billet première classe au ciel. C'est la seule fois qu'on t'offre un billet première classe gratuite. Parce qu'on vous propose même de vous suicider dans certaines religions. On vous propose de donner votre vie, de mourir en martyr, de tuer les autres, juste pour aller au ciel. C'est ce que j'appelle un billet première classe. Mais même dans les religions, on ne vous propose pas un billet première classe. On vous dit quand même, écoute, là où tu es, c'est bien. Si tu es pauvre, c'est bon. Heureux les pauvres. Car le royaume des cieux est à eux. Je ne suis pas étonné de ce que je ne suis pas étonné de ce que la foi que nous prêchons ne rencontre pas beaucoup de popularité. Parce que nous sommes déconnectés de la réalité. Nous sommes pressés d'embarquer les gens destination le ciel. Mais quelle est la réponse de Dieu aux problèmes des êtres humains? Quelle est la réponse de Dieu aux aspirations de tous les hommes? Tous veulent la paix. Qui veut la paix? Qui veut l'amour, le bonheur, la justice, l'équité? Même les plus grands escrocs réclament la justice. C'est une chose qui m'a choqué. De voir que même les pires escrocs de la terre, quand tu leur voles ce qu'ils ont, ils ne sont pas contents. Et puis ils vont quand même porter plainte alors qu'ils passent leur temps à voler les gens. Ça veut dire que dans l'être humain, il y a simplement un idéal de justice. Tout le monde aspire à ça. Tout le monde aspire au bonheur. Mais quelle est la réponse que Dieu donne? Et la religion nous a souvent fait croire, la religion nous a souvent culpabilisé par rapport au fait de chercher le bonheur, la paix. Bon, la paix encore on tolère. La paix encore la religion tolère. Mais quand tu veux le bonheur, des fois on vous culpabilise parce que vous avez l'air heureux. C'est pas vrai? Vous vous sentez coupable. Tu arrives au travail, tu as la joie. Les gens disent, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Ça va pas? Mais non, c'est toi qui ne vas pas. Moi ça va. Que quelqu'un dise amen. Et donc, c'est des clichés qu'on a paramétrés à l'intérieur de nous, au point que nous trouvons anormal de vouloir aspirer à un certain bonheur, épanouissement, accomplissement. Tu te sens coupable. Alors, il y en a, ils viennent à ICC, ils entendent ça une fois, et puis ils disent, là-bas, ils enseignent la prospérité. Non, mon ami, je ne crois pas à l'évangile de prospérité. Je crois à l'évangile du règne de Dieu. Parce que là où Dieu règne, il y a une différence notable. Que quelqu'un dise amen. Alors aujourd'hui, je vais vous partager en 12 points. 12, c'est le chiffre, c'est le nombre de gouvernements. C'est le nombre de la souveraineté. Je vais partager en 12 points, je ne sais pas si je vais y arriver aujourd'hui, mais bon, c'est une introduction. Je vais vous partager en 12 points des caractéristiques du royaume de Dieu. Est-ce qu'on est prêt? Ce message d'aujourd'hui s'intitule « Le règne de Dieu, c'est l'espérance des peuples ». Le point numéro 1, c'est que le règne de Dieu a toujours été l'attente d'Israël. Si vous lisez l'Ancien Testament, les Juifs, le peuple de Dieu, les Hébreux, n'attendaient pas de partir au paradis. Ils attendaient que le paradis vienne sur la terre. Que quelqu'un dise amen. Voyez-vous, l'aspiration des gens qui croyaient en Dieu dans l'Ancien Testament, ce n'était pas que eux s'empressent de partir de la terre. Parce qu'en réalité, quand ils mouraient, ils allaient déjà au paradis. La différence, c'est que dans l'Ancien Testament, le paradis était sous la terre. Il n'était pas dans le ciel. C'est ce que vous lisez lorsque vous lisez. Alors, il y a des passages qu'on va lire, des passages qu'on ne lira pas à cause du temps. Mais prenez les références et lisez-les à la maison. Amen. Vous lisez dans Luc chapitre 16 au verset 22, la Bible parle du sein d'Abraham. Ceux qui mouraient dans l'Ancien Testament allaient directement dans le sein d'Abraham. C'était le paradis, sauf que c'était un paradis qui était sous la terre. Que quelqu'un dise amen. Donc ce paradis se trouvait sous la terre. Ça c'est le point numéro 1. Je vais vite sur ce point. Le point numéro 2, c'est que la solution de Dieu. La solution de Dieu pour l'homme, ça n'a jamais été le ciel. Parce que le ciel n'est pas le territoire que Dieu a préparé d'avance pour l'homme. L'homme, comprenez-moi bien, le pasteur il avait dit tout à l'heure, nous ne voulons pas aller au ciel. Nous irons au ciel, que quelqu'un dise amen. Lorsque nous partirons, lorsque nous mourrons, nous partirons au ciel, dans la présence de Dieu. Mais le ciel, ce n'est pas l'endroit définitif où Dieu veut que toi et moi nous soyons. Parce que lorsque la Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme à son image, la Bible dit que, dans Genèse, on va le lire tout à l'heure, la Bible dit que Dieu l'a placé sur la terre, dans le jardin d'Éden. Et je vous montrerai tout à l'heure que Éden ne se trouvait pas au ciel. Beaucoup de gens pensent qu'Éden se trouve au ciel. Éden ne se trouvait pas au ciel. La solution de Dieu, ce n'est pas... La solution de Dieu pour l'homme n'est pas le ciel. La solution de Dieu pour l'homme, c'est un règne qu'il apporte sur la terre. Alléluia. Dans Apocalypse, chapitre 5, au verset 10, la Bible dit que... Attends, on va le lire rapidement. La Bible dit, il est écrit ici, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Dans Psaume 115, au verset 12 à 13, non, pardon, au verset 16 à 17, au verset 16, tout simplement, 15 à 16, on va dire. Psaume 115, verset 15 à 16, je me suis trompé sur la référence. « Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. » D'autres versions disent « Il a donné la terre aux êtres humains. » Que quelqu'un dise « être humain. » La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. C'est son domaine. C'est son territoire. Et il a fait la terre pour les êtres humains. Il a fait la terre pour toi et moi. Si tu es un esprit, que tu as un corps, c'est que tu es un être humain. La Bible dit qu'il a fait la terre pour toi et pour moi. C'est pour ça que même lorsqu'on partira au ciel, Dieu a déjà prévu qu'on revienne encore sur la terre. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Alors les gens qui vous parlent tout le temps du ciel, tu vas aller au ciel, tu vas connaître au ciel les routes, les sont comme si la couleur, le sol, c'est du marbre, c'est de l'or. Mon ami, c'est bon. Mais la Bible dit que nous régnerons sur la terre au siècle des siècles. Sauf que la différence, c'est que la terre n'aura plus le même aspect. Ça ne sera plus la même terre. Parce que Dieu créera, après le millénium, Dieu créera des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Que quelqu'un dise amen. Je dis ça pour vous dire quoi? Pour vous dire simplement, je ne vous dis pas de ne pas aspirer à aller au ciel, si. Mais je vous dis de ne pas être pressé de partir au ciel. Parce que la terre, c'est le territoire que Dieu a réservé pour toi et pour moi. Il ne faut pas être pressé de fuir la terre. La religion veut te faire partir. Le règne de Dieu veut te faire venir sur la terre. Point numéro 3. Éden se trouvait sur la terre, pas au ciel. On va ouvrir nos Bibles à Genèse chapitre 2. Pour certains d'entre vous, ça va être un choc peut-être. Parce que j'ai même écouté quelqu'un qui prêchait et disait que l'homme a chuté du ciel. La seule référence biblique où quelqu'un a chuté du ciel, c'est Satan. La Bible dit, Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est le seul qui a chuté du ciel. L'homme n'a jamais chuté du ciel. Genèse chapitre 2. Ah Seigneur, délivre-nous ce matin. Genèse chapitre 2. Je lis à partir du verset 5. Lorsque l'Éternel fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Verset 7. Non, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, à côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. La Bible dit l'Éternel planta un jardin en Éden, à côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Alléluia. Et là, il donne les différents fleuves qui sortaient du jardin d'Éden. Et parmi ces fleuves, au verset 13, vous avez, il dit, le deuxième, au verset 13, il dit, le nom du deuxième fleuve est Guion, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Cush qui veut dire simplement Éthiopie. Que quelqu'un dise amen. Alors, est-ce que là, on est au ciel, là? Est-ce que là, on est au ciel, camarade? Verset 15, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Éden, c'était sur la terre. La raison pour laquelle on n'a jamais trouvé le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Éden, ce n'est pas un lieu géographique. Même s'il est démontré aujourd'hui que ce coin-là, quelque part, était quelque part vers l'Afrique. C'est pour ça que mon frère Yves disait tout à l'heure, Samuel, on était tous là-bas. Que quelqu'un les amène. Nous étions tous là-bas. Parce que Adam, une des significations du mot Adam, c'est terre noire. Alors, quelqu'un m'a posé la question un jour, mais pourquoi est-ce qu'il y a des races de toutes les couleurs? Je lui ai dit, c'est une très bonne question à laquelle je ne peux pas apporter de réponse. Ce que je sais, c'est que le corps de Adam, on ne peut pas dire quelle était la couleur de son corps. Personne ne peut dire si Adam était jaune, noir, blanc. Personne ne peut dire. Maintenant, ceux qui avaient l'influence et le pouvoir, quand ils ont décidé Adam, ils l'ont décidé à leur image. Oh oh, c'est la loi du pouvoir, que quelqu'un les amène. Si tu n'es pas content, aie le pouvoir toi aussi et puis dessine ton Adam à ta couleur. Tu ne peux pas les blâmer. Tu ne peux pas les blâmer. Moi je dis, ils avaient raison. Bon. Alléluia. Mais on ne peut pas expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des gens de différentes couleurs de peau. Par contre, vous allez remarquer que la Bible dit que l'Éternel a formé le corps de l'homme à partir de la poussière de la terre. Amen. Et bizarrement, la même poussière réussit à vous produire des plantes de couleur rose, rouge, blanche, orange, toutes les couleurs. Mais c'est la même terre avec laquelle Dieu a formé le corps de l'homme. Alors, se pourrait-il que le corps d'Adam ait une composition, je ne sais pas comment, mais qui lui permettait de produire différentes couleurs, sans pour autant qu'on puisse tirer des conclusions par rapport à la capacité de la race un tel à cause de sa couleur de peau? Est-ce que ce serait possible à votre avis? Enfin bon, je ne sais pas, mais les physiciens ont démontré que toutes les couleurs sont dans le noir et que du noir sont toutes les couleurs. Donc, je ne dis pas qu'il était noir, je dis simplement que toutes les couleurs sont dans le noir. Point final. Donc quand je me regarde, je dis, qui sait? Mais quand vous rentrez dans le terrain de la race, vous vous perdez. Parce que l'homme est un esprit. Que quelqu'un dise amen. Le corps n'est que le récipient qui me contient. Je suis un esprit, je n'ai pas de couleur. Un esprit n'a pas de couleur. Alléluia. Dis à ton voisin, Éden se trouvait sur la terre. Éden n'était pas au ciel. Amen. Éden, c'était le paradis. Éden veut dire environnement, présence. Éden, c'est simplement un environnement. C'est pour ça qu'on ne l'a jamais retrouvé géographiquement. Pourquoi? Parce que c'est un environnement dans lequel Dieu est descendu sur la terre. Et lorsqu'il est descendu, il a créé un environnement. Et puis il a créé l'homme. Il a pris la poussière de la terre, il a formé l'homme. Le corps de l'homme, il l'a placé dans ce jardin. Et dans ce jardin, il y avait l'environnement de sa présence. Il était partout. Que quelqu'un dise amen. Éden, c'est simplement l'environnement de la présence de Dieu. Le paradis sur la terre. Alors si tu veux aller au ciel, rien que pour trouver le paradis, mon frère. Enfin, si tu attends de mourir pour voir le paradis, ce n'est pas la peine. Tu peux trouver le paradis maintenant. Mais en revenant en Éden, l'environnement de la présence de Dieu. Que quelqu'un dise amen. Le point numéro 4, c'est que le règne de Dieu est ce que Adam a perdu lorsqu'il était en Éden, lorsqu'il a chuté, lorsqu'il est tombé. Mais Adam n'est pas tombé du ciel. Adam est tombé de la position que Dieu lui avait conférée sur la terre. Dans Luc chapitre 4, au verset 6, Satan dit, si tu te prosternes et si tu m'adores, je te donnerai la gloire de tous les royaumes de la terre, car cela m'a été donné. Ça veut dire que Satan reconnaît que ce n'était même pas pour lui. Satan reconnaît que tous les royaumes, la souveraineté de la terre, lui a été donnée. Lui a été donnée par qui? Par Adam. Où est-ce que c'est écrit? Lisez Romains chapitre 6 au verset 16. La Bible dit, ne savez-vous pas que lorsque vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, lorsque vous vous livrez à quelqu'un pour lui obéir, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez. Ne savez-vous pas que si vous obéissez à la cigarette, vous devenez esclave de la cigarette? Si tu obéis au Saint-Esprit, tu deviens esclave de la justice de Dieu, esclave de la sainteté de Dieu. Si tu obéis au péché, tu deviens esclave du péché. Si tu obéis à Satan, tu deviens esclave de Satan. Celui à qui tu obéis, c'est celui auquel tu te livres pour devenir son esclave. Alors ça te choque, tu dis, je ne suis esclave de personne, mon ami, mon frère, ma soeur. Tu n'es esclave de personne? Chacun de nous était esclave de quelque chose. La Bible dit, chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé en toi? Est-ce la sainteté ou est-ce la convoitise? Est-ce l'immoralité, la fornication, l'adultère, la sorcellerie? Tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Alors en toi, qui a triomphé? Quelqu'un me dira, c'est moi. Alors tu es esclave de ton moi. Que quelqu'un dise amen. Est-ce que vous connaissez la trilogie de Satan? Il y en a qui ne la connaissent pas. Satan est le singe de Dieu, c'est un imitateur. Tout ce que Dieu crée, il imite. La Bible dit que Dieu est un être trinitaire. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Mais Satan aussi a sa trilogie. Satan, le monde et la chair. Le moi. Alors lorsque le moi triomphe en toi, inconsciemment que tu le veux ou que tu ne le veux pas, tu es en train de servir les intérêts du diable. Si tu es trop rempli de toi-même, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Je répète. Lorsque Adam est tombé, il n'est pas tombé du ciel. Adam est tombé de la position dans laquelle Dieu l'avait établi. Lorsque vous lirez Genèse chapitre 1 au verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il gouverne, qu'il domine, qu'il influence. Là c'est ma traduction, Ivan Castanou. Mais c'est écrit dans la Bible. Amen. Dans Genèse chapitre 1 au verset 26, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et il a perdu cette position d'autorité. Lorsque Adam était créé à l'image de Dieu, toute la création lui était soumise. Quand il voyait un pitbull, le pitbull disait, à vos ordres, maître. Parce que tu es celui qui a été établi pour gouverner sur la création. Un moustique ne pouvait pas piquer Adam. Le paludisme, ça n'existait pas. Que quelqu'un dise amen. La raison pour laquelle toutes ces choses sont rentrées, c'est à cause du péché, à cause du fait qu'il est tombé de sa position d'autorité, de souveraineté, de roi qu'il avait sur la terre. Et un jour, rempli du Saint-Esprit, quand j'étais en Afrique, j'étais en Côte d'Ivoire, ayant compris ce que je vous partage, je me suis dit, je ne prendrai pas de médicaments contre le paludisme. Et vous savez, en Afrique, il y a des pays où vous êtes... Alors pourtant, c'est la Côte d'Ivoire, c'est bizarre ça d'ailleurs. Ivoirien, où êtes-vous? Parce qu'au Centrafrique, encore, on peut comprendre qu'il y a beaucoup de moustiques. Écoutez, lorsque vous allez mettre le goudron entre la route de l'aéroport et le centre-ville, vous pourrez nous parler. Seigneur, fais que cette cassette n'arrive jamais au Centrafrique, s'il te plaît. Non, je plaisante, c'est un bon pays. C'est un très bon pays. Et donc, rempli du Saint-Esprit, je me suis dit, je voyais des moustiques qui me piquaient. Et il y avait plein de moustiques comme ça sur tout mon bras. J'ai dit, hey, moustique, vous savez pas que j'ai été créé pour régner sur vous? Vous n'avez pas le droit de me piquer. Je détruis vos comment on appelle ça? Hein? Comment on appelle encore ça? Des dards. Bon, bref, j'ai détruit l'effet de vos piqûres sur moi au nom de Jésus. Français est trop compliqué comme langue, mon gars. Et quelques semaines après, j'avais un gros palu. J'ai dû prendre des médicaments. Mais n'empêche que je me suis dit, de toutes les manières, je règne quand même. Adam a perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée. Il était investi d'une autorité. Il était investi d'un pouvoir. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme sur la terre, la volonté, la pensée de Dieu, c'était simplement que l'homme sur la terre fasse, d'abord, reflète ce que Dieu lui-même est. Et en plus, qu'il fasse simplement ce que Dieu lui-même a toujours fait. Si ton papa est PDG, ton papa voudra que quand tu grandis, tu sois aussi PDG. Que quelqu'un dise amen. Dieu est un roi. Sauf que le ciel, ce n'est pas le territoire qu'il a préparé pour l'homme. C'est son territoire à lui. Alors il dit, mon fils, tant que tu es dans le territoire de ton papa, tu es un prince. Amen. C'est pour ça que ma fille, tant qu'elle est chez moi, je l'appelle princesse. Le jour où elle quittera la maison, elle sera une reine, parce qu'elle ira dans une autre maison. C'est pour ça que la reine Elisabeth, pour l'instant, c'est la reine, et Charles est toujours prince. Parce que tant que la reine est là, la reine mère, non, là, c'est pas Victoria cette fois-ci, t'inquiète pas. Hein. Bon, là. J'ai dit la reine Elisabeth. Tant qu'elle est là, Charles ne peut pas être roi. Si Charles doit être roi, que la mère veut que Charles soit roi, il faut trouver à Charles un autre territoire, un territoire autre que la Grande-Bretagne, dans lequel il pourra aller exercer la souveraineté. Que quelqu'un dise Amen. Et Dieu, voulant que toi et moi, on expérimente ce qu'il expérimente, il a créé un autre territoire qu'il a appelé la terre. Et puis il a mis l'être humain là. Il a dit maintenant, fais sur cette terre-là ce que moi je fais au ciel. Que quelqu'un dise Amen. Mais Adam n'a pas perdu. Il n'est pas tombé du ciel. Il est tombé de la position qu'il avait. Alléluia. Point numéro 5. Le point numéro 5, c'est que le règne de Dieu, c'est ce que Dieu avait préparé avant la fondation du monde. Le règne de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu. Matthieu chapitre 25. Je ne vous ai pas encore expliqué ce que c'est que le règne de Dieu, je sais. Matthieu chapitre 25 au verset 34. C'est Jésus qui parle. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Que quelqu'un dise Amen. Point numéro 6. Le règne de Dieu, c'est la réponse que Jésus a apportée sur la terre lorsqu'il est venu. Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6. Ésaïe chapitre 9, du verset 5 jusqu'au verset 6. Je vous en supplie. Aujourd'hui, c'est un enseignement. Je prends le temps, mais je vous en supplie. Écoutez, comprenez bien ce que je vous dis. Ésaïe chapitre 6, versets 5 à 6. Je lis. Pardon, chapitre 9, excusez-moi. Versets 5 à 6. Ésaïe chapitre 9. Est-ce que vous y êtes? On va tourner un peu dans la Bible aujourd'hui. Est-ce que vous y êtes? Si tu n'y es pas, donne une pièce d'un euro à ton voisin et dis-lui, aide-moi. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire, une autre version dit encore, donné au royaume, de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ici, il est écrit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ésaïe a prophétisé sur la venue de Jésus-Christ sur la terre. Que quelqu'un dise Amen. Un jour, je parlais récemment avec quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, et il y a une sœur qui est au renouveau, charismatique, catholique. Et je lui ai dit, tu sais ma sœur, c'est bien parce qu'elle aime le Seigneur. Elle aime le Seigneur. Il y a des gens qui aiment le Seigneur. Rassurez-vous, il n'y a pas que dans nos églises que les gens aiment le Seigneur. Que quelqu'un dise Amen. Et je lui dis, tu sais, c'est bien, mais arrête simplement de pratiquer tes dogmes là. Laisse seulement ça de côté. Elle dit, mais pasteur, Marie c'est la mère de Dieu. J'ai dit, mais non, Marie c'est pas la mère de Dieu. Marie c'est la mère de Jésus. Elle me dit, mais Jésus est Dieu. J'ai dit, oui. Jésus est la première incarnation de Christ sur la terre. Que quelqu'un dise Amen. C'est pour ça qu'à cette époque-là, on l'appelait le Fils unique de Dieu. Mais depuis qu'il est mort et ressuscité, il n'est plus le Fils unique de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il est maintenant le premier-né d'entre plusieurs frères. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Je dis non. Marie, c'est la mère du corps. Ce n'est pas elle. Non. Marie, c'est la mère du corps. Celui qui a mis la semence là, c'est lui le papa. Celui qui a mis la semence à l'intérieur là, c'est le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise Amen. Celui qui a mis la semence, c'est le Saint-Esprit. Marie a accouché le corps, mais elle n'a pas accouché le Christ. Elle a accouché Jésus. C'est pour ça qu'ici, vous lisez, l'enfant est né, le Fils est donné. Jésus, c'est le corps, Christ, c'est le résident. Jésus, c'est le récipient. Que quelqu'un dise Amen. Jésus, c'est le corps. Et la domination reposera sur son épaule. Le mot domination, ici en hébreu, c'est le mot misra. Le mot Misra veut dire empire, gouvernement, souveraineté, royaume. Ça veut dire que lorsque le Christ vient sur la terre, Isaïe l'a prophétisé, il la porterait sur ses épaules, il porterait un joug, il porterait un fardeau. Et le fardeau qu'il porterait sur ses épaules, ce serait la réponse au problème de l'être humain. Et la réponse qu'il apporte, la Bible dit, c'est un royaume qu'il apporte à l'être humain. Alléluia. Alléluia. Je sais lire. Le règne de Dieu, point numéro 7, le règne de Dieu est ce que Daniel a vu lorsqu'il a demandé à Dieu de lui montrer ce qui allait venir dans la suite des temps. Vous lirez à la maison Daniel chapitre 2 verset 44, Daniel 7 verset 13 à 14. Un jour Daniel priait et Dieu lui a montré. Daniel qui était dans la religion juive, à un certain moment il a dû se demander, mais Seigneur, est-ce qu'il y a autre chose à part faire des sacrifices, brûler des moutons, brûler des agneaux, etc. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et lorsque Dieu s'est révélé à Daniel à deux reprises, Dieu lui a montré deux visions différentes qui avaient la même conclusion. Dieu lui a montré une période, une ère, un temps qui viendra sur la terre où Jésus de Nazareth, où le roi des rois va régner sur toute la terre. Que quelqu'un dise Amen. Où la souveraineté, la majesté, la domination, le règne de paix, de justice, d'amour auquel les hommes aspirent sera sur la terre. Mais tant que Dieu ne règne pas sur la terre, cela n'est pas possible encore. Alors les hommes sont obligés de fabriquer des réponses. La réponse de Dieu, c'est un règne, c'est une influence, c'est une souveraineté. Ce que les juifs n'ont pas reconnu, c'est que lorsque Dieu allait apporter cette réponse, la plupart des juifs, quand Jésus est venu sur la terre, ils attendaient un libérateur, ils attendaient un guerrier, ils attendaient quelqu'un qui était puissant, physiquement, pour les délivrer de l'oppression des Romains. Et c'est ça qu'ils attendaient. Et quand Jésus est venu, Jésus leur dit, « Salut les gars, tu veux quoi toi ?» Il dit, « Le royaume des cieux est arrivé. » Ils disent, « Oh, petit, est-ce que tu connais les mots que tu as souhaité utiliser ?» Il leur dit, « Le royaume est là, repentez-vous. » Ça veut dire changer votre manière de penser. Changer votre mentalité, le règne est là. La version King James que j'aime beaucoup dit, « Le royaume est là, il est à portée de main. » Vous pouvez vous en emparer, vous pouvez le vivre sur la terre. À condition de changer votre manière de penser. Changez votre manière de penser pour changer votre vie. Changez vos actes ensuite, derrière. Ça, c'est ce que je vais développer les semaines suivantes. Que quelqu'un dise Amen. Les Juifs, les Hébreux, dans l'Ancien Testament, n'attendaient pas de quitter la terre pour aller au ciel. Ce qu'ils attendaient, leur espérance, c'était que le Messie, le libérateur, vienne sur la terre. Et lorsque le Messie, le libérateur, est venu sur la terre, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu la dimension où le royaume dont Daniel a parlé, Ézéchiel a parlé. Ils n'ont pas compris que ce royaume commençait d'abord à l'intérieur de l'être humain, avant de se manifester à l'extérieur, et ensuite sur toute la terre. Ils n'ont pas su le reconnaître. Alléluia. Huitième point, le règne de Dieu. Et ce pourquoi Jésus a demandé de prier. Dans Matthieu chapitre 6 au verset 10. Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il a dit de prier pour ça. Il n'a pas dit de prier pour le réveil. Dans nos églises, nous prions, nous passons notre temps à prier pour le réveil. Seigneur, envoie le réveil. Seigneur, envoie le réveil. Seigneur, envoie le réveil. Je vous l'ai dit, chaque fois qu'il y a un réveil, il y a un sommeil. Les réveils sont venus et ils sont partis. Mais quand le règne vient, il s'assied et s'installe dans le pays. Alléluia. Parce que vous comprendrez plus tard que lorsqu'on parle de règne, c'est un concept. Lorsqu'on parle de règne, on parle d'une influence. Quand on parle du règne, on parle d'une influence comme celle du sel dans l'eau. Vous le mettez et puis brusquement, il se dissout. Par contre, brusquement, sans avertir, l'eau a pris de la saveur. Alléluia. Je continue. Le règne de Dieu est la réponse de Dieu pour tous ceux qui se reconnaissent comme étant spirituellement pauvres. Que quelqu'un dise Amen. Je répète, le règne de Dieu, il y a des gens sur cette terre qui sont spirituellement pauvres, c'est-à-dire ils reconnaissent que spirituellement ils sont affamés. Et vous remarquerez aujourd'hui que sur la terre, même dans les pays occidentaux, qui se croyaient à l'abri. Aujourd'hui, il y a un regain de spiritualité partout. tout le monde. Les sectes sont en train de proliférer en grand nombre. Il y a de plus en plus de clients, d'adeptes pour rentrer dans tout et n'importe quoi. Vous allumez la télévision, vous regardez les trucs, même les stages sur le développement personnel. On entend parler de plus en plus de sectes. Ça prouve quoi? Ça prouve que malgré les conditions matérielles des êtres humains, l'être humain, l'homme aujourd'hui est en quête de spiritualité. L'homme aujourd'hui, soudainement, a besoin de savoir un peu au fait. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Les hommes se posent aujourd'hui des questions. Ils ont besoin de savoir simplement qui ils sont. Et toutes ces personnes qui sont en train de chercher spirituellement leur origine, ce sont des personnes qui sont des pauvres en esprit. Pourquoi? Parce qu'ils se reconnaissent spirituellement comme étant affamés, pauvres. La Bible n'a pas dit heureux les pauvres. La Bible dit heureux les pauvres en esprit. Pas heureux les pauvres. Ça n'a rien de spirituel, la pauvreté. C'est que quand les pauvres en esprit viennent à nous, nous ne leur apportons pas le royaume, nous leur apportons la religion. Les gens qui sont pauvres en esprit sont des gens qui ont soif de savoir qui ils sont, d'où ils viennent. Les gens qui sont pauvres en esprit sont des gens qui ont soif de changer les circonstances, de ne plus les subir. Les gens qui sont pauvres en esprit sont des gens qui aspirent que quelque chose change dans leur vie. Ils en ont assez de croupir dans la médiocrité, dans la pauvreté, dans la maladie, de l'oppression, dans la compression, dans la dépression. Ils veulent sortir de là. Les pauvres en esprit vous disent, il faut que ça change. Ça, c'est le cri des gens qui sont pauvres en esprit. Il faut que ça change. Et quand ils viennent, il faut que ça change maintenant. Je veux que ma vie change. Dans l'église, on leur dit, c'est bien, tu viens d'arriver. Assieds-toi, attache ta ceinture, on va aller au ciel. Il dit, non, mais je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour rester là, parce que je voulais que ça change dès maintenant. Il dit, t'inquiète pas, on va aller au ciel. Ne sois pas orgueilleux, attention, l'argent est là, l'amour, non, il dit, non, n'utilise pas l'amour de l'argent, il dit, l'argent est la racine de tous les maux, attention. Non, la Bible dit, c'est l'amour de l'argent, c'est pas l'argent, que quelqu'un dise amen. Alors quand tu es malade, il dit, c'est pas grave, supporte l'affliction, un jour, ça ira bien. Oui, mais je veux avoir la foi dans la guérison divine. Dieu ne guérit plus. C'était l'ère apostolique. C'est fini, ça. Dieu ne guérit plus. Qui t'a dit que Dieu guérissait encore aujourd'hui? Et alors, il vient, il a soif. Et comme il ne voit pas la réponse, ben, il s'en va. Et puis, il va rentrer dans les groupes politiques occultes. Il va rentrer dans certains groupes politiques occultes où on lui dit, mon frère, tu as envie de t'épanouir, c'est pas mauvais. Tu as envie de réussir, tu as envie de laisser un héritage aux enfants de tes enfants, tu as envie d'être une source de bénédiction, ce n'est pas mauvais. Rentre avec nous. Et nous l'avons perdu. Parce que de lui enseignant le ciel et le ciel. Alléluia. Point numéro 10. Le règne de Dieu, c'est le seul message que Jésus ait annoncé, qu'il a proclamé. Il n'y a même pas que lui. Jean-Baptiste qui a précédé Jésus, il a annoncé le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 3 au verset 2. Jean-Baptiste commença à prêcher et il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est arrivé. Il est là. Sur le point d'être manifesté. Et c'est le seul message que Jésus a demandé à ses disciples d'annoncer. Matthieu chapitre 6 au verset 6, Matthieu chapitre 10, pardon, verset 6 à 7. Il a dit, je vous envoie, lorsque vous irez, allez, dites-leur, annoncez-leur que le royaume des cieux, le royaume de Dieu est arrivé. Alors mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Le règne de Dieu est là. Que quelqu'un dise amen. Mais nous, qu'est-ce qu'on leur annonce? Comme j'ai souvent dit, Jésus t'aime. Mon frère, est-ce que tu connais Jésus? Non, il t'aime. Est-ce qu'il t'a dit qu'il voulait savoir si Dieu l'aimait? De toutes les manières, la plupart des gens qui ne croient pas en Dieu, ils ont plus peur de Satan que de Dieu. Ils sont convaincus que Dieu est bon. Ils pensent qu'il est bonbon. Alléluia. Ils sont convaincus que Dieu est doux. Beaucoup même pensent qu'il est doudou. Mais Jésus a dit, quand vous allez parler aux gens, ne leur dites pas Jésus t'aime. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit quand vous irez les voir. Ceci dit, il y a quelqu'un peut-être qui a besoin d'être rassuré sur le fait que Dieu l'aime. Amen. Donc il y en a avec qui ça s'applique. Mais il a dit quand vous irez, dites-leur le royaume des cieux est venu vers vous. Il est à votre portée. Tu peux le vivre maintenant sur cette terre et pas attendre de partir au ciel. Ça commence maintenant, ça continuera dans l'éternité. Mais ça commence maintenant. Quelqu'un m'a dit, oui, mais Jésus est venu annoncer le salut. Oui, c'est vrai. Mais il est d'abord venu annoncer le royaume. Et dans le royaume de Dieu, il y a aussi le salut. Que quelqu'un dise amen. Parce que rassurez-vous, dans l'Ancien Testament,
les gens qui mouraient n'allaient pas en enfer quand même. Et aussi, vous me dites, ils allaient en enfer. Où sont passés les David, les Jérémie, les Daniel? Ils allaient où? Si vous me dites que Jésus est venu uniquement pour apporter le salut, alors, s'il est venu pour apporter le salut, ça veut dire que le salut n'existait pas avant que Jésus n'arrive? Bien sûr que si. La différence était que le salut avant s'obtenait par la loi, maintenant, après Jésus, ça s'obtient par la foi. Mais il n'est pas venu que pour apporter le salut. Il est venu pour apporter un règne, une souveraineté, une domination. Et ma prière ce soir, ce matin, c'est qu'en sortant de là, malgré le fait qu'on n'a pas encore tout compris, on n'a pas encore tout enseigné, mais que quelqu'un simplement commence à gémir, à soupirer en disant que ton règne vienne. Ça, c'est ma prière en sortant de là. Que quelqu'un puisse dire que ton règne vienne. L'ère du royaume de Dieu est une ère. Le temps du royaume de Dieu est un temps où l'homme pourrait retourner en Éden et expérimenter de nouveau la plénitude de la présence de Dieu. L'homme pourrait de nouveau revenir à sa source. Tout comme le poisson revient dans l'eau, l'homme revient en Éden. Le temps du royaume des cieux, le temps du royaume de Dieu, c'est un temps où l'homme peut de nouveau être réconcilié avec Dieu, se rattacher à Dieu. Le royaume commence dans ta vie lorsque tu reviens en Éden. Parce que la conséquence du péché, c'est que Adam a été expulsé de Éden. Et lorsque Adam a été expulsé de Éden, tu as été expulsé de Éden toi aussi. Parce que la Bible dit que nous étions tous en lui. Alléluia. Mais la volonté de Dieu, c'est de te ramener en Éden. Lorsque le royaume, le temps du royaume vient, c'est le temps d'abord de la réconciliation. On se rattache à Dieu. Amen. Deuxièmement, lorsque le temps du royaume vient. Alors, lorsque, vous savez, lorsqu'on se rattache à Dieu, ça veut dire que finit la dépression, finit le stress, finit l'angoisse, finit la peur. La peur d'échouer, la peur de la maladie, la peur de l'échec, la peur de la pauvreté, la peur de ci, la peur de ça, la peur du noir. Les gens ont peur. Lorsque Dieu règne, finit la peur. Lorsque Dieu règne, finit l'oppression de la maladie. Je ne dis pas que tu ne seras plus malade. Parce que tant que tu es dans un corps humain, corruptible, la maladie peut encore te toucher, certainement. Mais je dis, finis l'oppression de la maladie. Parce qu'il y a des gens comme Paul qui ont été touchés par la maladie, mais qui n'ont pas été oppressés par la maladie. Parce que la maladie ne les a jamais empêchés de faire ce qu'ils avaient à faire. Parce que la Bible disait que même lorsqu'ils avaient l'air faibles, ils étaient forts. C'est ce que le règne de Dieu installé dans ta vie fait. Même si tu as une faiblesse, même si tu as une maladie, brusquement tu te rends compte que tu es toujours capable, toujours solide, toujours debout. Parce que la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elles ne chancèlent pas. Là où Dieu règne, la dépression ne peut pas régner. Là où Dieu règne, la frustration ne peut pas régner. Là où Dieu règne, la justice règne. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de sentiment de culpabilité. Là où Dieu règne, il n'y a plus de rejet. Là où Dieu règne, il n'y a plus de manque de pardon. Là où Dieu règne, il n'y a plus de doute. Là où Dieu règne, il n'y a plus de colère. Là où Dieu règne, il n'y a plus de mensonge. Là où Dieu règne, on revient simplement en Éden. Et on peut expérimenter maintenant la joie, la plénitude de sa présence. J'ai à manger, j'ai pas à manger, je dis, ça va, alléluia, it's okay. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, je dis, je vais bien. Ça va, tu tiens debout? Je tiens par la puissance de son esprit, je suis debout. Tu me voulais KO, je suis ok. Là où Dieu règne, mon frère, ma soeur, lorsqu'il règne à l'intérieur de toi, tu deviens inarrêtable, unstoppable, unmovable, inarrêtable, inébranlable. Tu deviens solide, planté comme un olivier verdoyant dans la maison de l'Éternel. Là où Dieu règne, il n'y a plus de place pour ces choses qui te limitaient, qui te contenaient, que la démocratie ne peut pas te donner. La démocratie, tu peux avoir un travail, mais tu ne peux pas avoir la paix. Que quelqu'un dise amen. Là où Dieu règne, l'être humain recommence à acquérir ce qu'il avait perdu lorsqu'il était expulsé. Là où Dieu règne, il y a une reconnexion. Tu n'es plus expulsé, tu es ramené. La réconciliation. Alléluia. Et c'est le commencement. C'est le commencement de la restauration. Là où Dieu règne, tout ce qu'on t'avait volé, tu le récupères. Tout est désormais accessible et possible. Pas au ciel. Maintenant, que quelqu'un dise maintenant. Que quelqu'un dise maintenant. tout est possible maintenant. Là où Dieu règne, mon frère, ma soeur, plus de limitations. Les clichés de pauvreté, les mentalités de pauvreté, de ridicule, de bassesse, de petitesse, mon ami, là où Dieu règne, ces choses sont terminées. Parce que là où Dieu règne, il renouvelle ta vision. Et lorsque Dieu renouvelle ta vision, il t'oblige à voir grand. Parce qu'il est grand. Et tu es ce qu'il est. S'il est capable, tu es capable. S'il est puissant, tu es puissant. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce verset dans la Bible qui dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Il n'a pas dit « Ton Dieu ordonne que tu sois médiocre et faible ». En train de dire « Ah, ça ne va pas, Seigneur, je ne me sens pas bien ». Sois puissant. La Bible dit que le faible dise « Je suis fort ». J'en ai pas, je bénirai l'Éternel. Je ne me laisse pas contrôler, influencer, intimider par les circonstances. No way, absolument pas. Je règne, que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. Je règne d'abord sur moi-même. Je règne sur le péché. Parce que là où Dieu règne, il n'y a plus de place pour le péché. Non, parce que mon frère, là où Dieu règne, c'est fini. Parce que quand tu reviens en Éden, tu reviens à ta première nature. Quand tu sors de Éden, tu es dénaturé. Quand tu reviens en Éden, tu reviens à ta première nature. La sainteté, la pureté, la vérité, la justice, l'excellence, l'intégrité, la diligence. Tu deviens simplement comme Dieu est. Tu n'es plus dénaturé. Si tu es encore dans le péché, tu joues avec un homme, avec une femme, mon frère, tu n'es pas en Éden. Tu es à l'église, mais tu n'es pas en Christ. Que quelqu'un dise amen. Alors, mon frère, mais je peux t'assurer, il y a des gens qui sont à l'église qui expérimentent l'enfer au quotidien. Parce que l'église, ce n'est pas un abri. Que quelqu'un dise amen. Tu peux, même ICC, ce n'est pas un abri. L'abri, c'est lorsque tu te repars en Éden, dans le jardin. Alléluia. Le dernier point, c'est que l'ère du royaume de Dieu, c'est une ère, c'est un temps, c'est un moment, c'est une période. C'est un concept dans lequel, une fois que tu es rattaché en Dieu, tu peux de nouveau remplir la mission pour laquelle Dieu t'a placé sur la terre. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres, que quelqu'un dise amen. Tu n'es pas venu pour être un spectateur. Tu es venu pour être un acteur. Tu es venu pour être un bâtisseur. Tu es venu, pas par accident. Papa a dit, je ne voulais pas de toi, c'est pas grave. Dieu a dit, tu es venu parce qu'il fallait que tu sois là. Tu n'es pas là pour m'accompagner, pour voir ce que je fais. C'est pas vrai. Tu n'es pas là pour te comparer à moi ou te comparer à ton voisin. C'est pas vrai. Entre le temps où tu es venu, entre le temps où tu vas partir, tu as une course à faire. Tu es en train de courir contre toi-même. Toi contre toi. Toi actuel contre ton vrai potentiel. Les scientifiques disent que chacun de nous utilise seulement... Alors, les plus pessimistes disent 2% de ton potentiel. Les plus optimistes disent qu'on utilise en moyenne 10% de notre potentiel. Mais vous savez ce que ça veut dire, 10% de notre potentiel? Ça veut dire que tu as encore 90% qui n'est pas exploité. Ça veut dire que même ton salaire actuel est 90 fois inférieur à ce que tu pourrais gagner. Que quelqu'un dise amen. Repends-toi. Je me réponds moi aussi d'ailleurs. Alléluia. Que quelqu'un dise amen. Lorsque Dieu règne dans ta vie et au travers de ta vie, tu deviens de nouveau capable de faire ce pourquoi il t'a créé. Et si tu veux savoir pourquoi il t'a créé, il a écrit ça dans Genèse chapitre 1 au verset 28. Puis Dieu les bénit et leur dit, deux points, sois fécond, sois productif, sois fertile, sois fécond, produis, porte du fruit. Toute la semence est à l'intérieur de toi. Laisse-la sortir maintenant. 1, 2. Multiplie-toi. Fais des enfants spirituels. Fais aussi des enfants physiques. La stérilité n'est pas ton partage. Que quelqu'un dise amen. Si tu étais stérile, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Le joug de la stérilité, je ne sais pas comment, mais il va être brisé cette année au nom de Jésus. Il ne peut pas rester. Il ne peut pas tenir. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Là où Dieu règne, il dit, sois fécond, porte du fruit, multiplie-toi, remplis la terre. Et c'est ce qu'il a dit dans Matthieu 28, verset 18, faites des disciples. Multipliez-vous et remplissez la terre. Multipliez-vous, ça veut dire, tu ne peux pas rester stérile. Tu ne peux pas vivre ta vie en Christ uniquement pour toi. Ce n'est pas possible. Si personne n'a été influencé positivement au travers de ta vie, c'est que tu ne portes pas de fruits. Si personne ne peut dire je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à cette personne, c'est pas à lui la gloire, mais par lui Dieu m'a relevé. S'il y a personne qui en te regardant peut donner ce genre de témoignage, ça veut dire que tu n'as pas commencé encore à te multiplier. Et si tu te multiplies pas, c'est que tu es encore improductif. Parce que une fois que tu portes du fruit, la deuxième étape automatiquement c'est la multiplication ou encore la reproduction, parce que chaque espèce est appelée à se reproduire selon son espèce. Tu dois te reproduire. Dis à ton voisin, tu dois te reproduire. Dis à l'autre encore à ta gauche, à l'autre côté. Tu lui dis, tu dois te multiplier. Mon frère, ma soeur, il faut qu'il y ait des gens sur cette terre qui regardent à toi comme étant un modèle. Il faut qu'il y ait des gens qui regardent à toi en disant gloire à Dieu pour cette personne. Je suis là où je suis parce qu'elle m'a inspiré. Elle m'a influencé positivement. Le mot influence n'a rien de négatif tant que c'est positif. Elle m'a donné envie de marcher dans la sainteté. Elle m'a donné envie de me relever. Elle m'a donné envie de monter. Elle m'a donné envie de déployer mes ailes comme l'aigle. On ne peut pas me stopper. Au départ, je doutais. Au départ, j'avais peur. Au départ, j'étais hésitante. J'hésitais, je balbutiais, je tremblais. J'étais complètement intimidé. Mais maintenant, tu vois, aujourd'hui, je peux prendre mon envol. Je peux maintenant commencer à étendre mes ailes. Et je peux commencer à m'envoler. Tu dis, ah, tu n'es pas gentil. Qu'importe, je ne suis pas gentil, mon frère ou ma soeur. Tu n'es pas bien. Tu es quelqu'un de méchant. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Ah, tu es comme. Je suis ce que Dieu dit. Tu n'es pas capable. Personne n'a jamais fait ça avant toi. Je peux ce que Dieu dit que je peux. In the name of Jesus. Je peux. Dis à ton voisin, je peux. Je suis. Alléluia. Lorsque Dieu règne, tu deviens inarrêtable. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de challenge. Au contraire. Lorsque Dieu règne, si Dieu règne dans ta vie, les challenges vont commencer grave. Et il a dit, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront. Je suis avec toi pour te délivrer. Je te donnerai un mental d'acier. Je rendrai ton visage semblable à un caillou. C'est-à-dire, les hommes te giflent et puis ils pensent que tu vas tomber. Mais toi, en brusquement, on dirait que ta tête est insensible. Tu es là debout. Tu es là debout. Mais quoi? Ça ne lui fait rien? Non, non, je ne peux pas. Il a rendu mon visage semblable à un caillou. Que quelqu'un dise amen. Là où Dieu règne, tu dois te multiplier. Mon frère, ce n'est pas une option, c'est un commandement. Dieu, je suis pour, hein? J'exagère, mais Dieu. Jésus a maudit le figuier parce qu'il ne sortait pas de fruits. La Bible dit, s'il ne porte pas de fruits, on coupe. Dieu te laisse encore un peu de temps. Dieu te laisse encore un peu de temps parce que Dieu est patient. Si tu ne portes pas de fruits, il t'a pas dit de porter la semence parce que la semence elle est en toi. Arrête de dire, il n'y a pas l'amour. Non, l'amour est déjà en toi. Laisse-le sortir, c'est tout. Arrête de le tuer, arrête de l'étouffer dans des excuses et de la médiocrité. Arrête de... Non, arrête ça. Dis à ton voisin, arrête. Dis à ton voisin, arrête. Laisse sortir la nature de Dieu qui est en toi. Multiplie-toi. Ensuite, maintenant que tu t'es multiplié, quand on devient 1, 2, 3, vous savez, il y a 3 ans, on était une quinzaine de personnes. Regardez, aujourd'hui, on est plus de 400 maintenant. Ça, c'est ce qu'on appelle la multiplication. Et quand on sort d'ici, vous savez ce qu'on fait maintenant? On va commencer à remplir la terre. Les gens ne te voulaient pas, ils disent, mais on ne voulait pas d'eux ici, on ne voulait pas d'eux dans la politique, on ne voulait pas d'eux dans l'éducation. Mais brusquement, ils arrivent soudainement, les envahisseurs sont arrivés. Ils sont venus pour reprendre la place qui leur revient de droit. Ils sont venus pour reprendre le pays, pour prendre possession. Ils ne sont pas là pour accompagner les autres, c'est pas vrai. Ils sont là pour s'asseoir. Il y en a, quand tu viens, ils espèrent que tu vas partir. Tu dis, si tu ne m'aimes pas, c'est toi qui partiras, je ne partirai pas. Dis à toi, je ne partirai pas. Celui qui veut te chasser sera chassé à ta place. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je suis avec toi pour te délivrer. Alors que les enfants de Dieu, vous savez, ils essaient de mettre toutes sortes d'artifices pour empêcher la croissance de l'église. Mais ils ne pourront pas. Il a dit, je bâtirai mon église. Si c'était mon église à moi, alors on pourrait stopper. Mais il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne pourront pas la contenir. Alors tu mets des barricades pour bloquer sa progression, mais soudainement par une puissance invisible, elle continue d'avancer. On essaie de l'oppresser comme on a fait avec Israël au temps de Pharaon. On essaie de l'étouffer, de l'oppresser, mais soudainement il continue encore de se multiplier. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il n'arrête pas de s'élargir. On leur avait dit de ne pas venir à la télévision. Brusquement ils arrivent à la télévision. Ils arrivent, ils sont en train de conquérir les médias. le temps du règne de Dieu est arrivé. Et là où Dieu règne, il dit assujettis la terre, elle te servira. Et ensuite il dit domine. Pas ton voisin, mais la création. Les animaux, il n'a pas dit de dominer ton voisin, il a dit d'aimer ton voisin. Que quelqu'un dise amen. Frère, mon frère, ma soeur, le règne de Dieu, c'est ce que tu cherches. Le simple fait que tu sois à l'église prouve que tu cherches le règne de Dieu. Pas la religion, pas le christianisme, mais le règne de Dieu. Jésus n'a jamais apporté une religion sur la terre. Il a apporté une réponse sur ses épaules qui était un règne qui commence à l'intérieur de toi. Et lorsqu'il commence à l'intérieur de toi et qu'il déménage à l'intérieur, soudainement, brusquement, sans avertir, va commencer à se reproduire à l'extérieur. Et c'est là que le monde dira gloire à Dieu pour ces personnes. Parce que la Bible dit que la création attend ta et ma manifestation. Que quelqu'un dise amen. Alors mon frère, je vais faire un appel ce matin. Si tu sais que tu es encore dans la religion, tu es à l'église, tu n'es pas à l'abri, tu veux retourner, revenir en Éden. Revenir à la réconciliation, parce que tout commence d'abord par là. Revenir d'abord, avant de récupérer la position de souveraineté, de gouvernement, d'influence, tu dois d'abord revenir dans le jardin d'où tu as été expulsé. Si tu veux revenir en Éden, revenir dans l'environnement de sa présence, pas revenir à la religion, mais revenir à la relation d'intimité avec Dieu. Si tu es concerné, mon frère et ma soeur, je te demanderai rapidement, parce que le temps est avancé, je te demanderai simplement de te lever. Je veux prendre le temps de prier pour quelqu'un qui veut se réconcilier avec Dieu. Quelqu'un qui dit, Seigneur, moi j'aspire maintenant à vivre ce règne de paix, ce règne d'amour, ce règne de justice, ce règne de puissance, ce règne d'équité, ce règne où je sens enfin que je peux de nouveau contrôler les circonstances, ce règne où je ne me laisse plus balloter à gauche et à droite au gré des vagues, ce règne où je sens désormais que Christ en moi est l'espérance de gloire et Christ en moi domine et influence positivement mon environnement, ce règne où je sens que je suis maintenant libéré de la dépression, du rejet, du manque de pardon, de la colère, de l'amertume et de toutes ces malédiction héréditaire qui provenait de mes anciens, de mes aïeuls, de mes ancêtres. Je veux être libéré de toutes ces choses qui me retenaient captif. Je te demande ce matin, Père, que ton règne vienne dans ma vie. C'est le cri de mon cœur, c'est l'aspiration de mon cœur. Parce que là où tu règnes, alors la paix véritable, pas la paix éphémère que dans le monde, je parle de cette paix véritable, pas cette paix qui dépend des bonnes choses qui arrivent, non, cette paix qui ne dépend absolument pas des circonstances, qui dépend simplement de ce que ma joie vient de l'Éternel et tu es ma force, cette paix qui vient uniquement de la relation avec toi. Mon frère, ma soeur, si tu es concerné par cette prière, tu veux simplement dire, Seigneur, je veux revenir en Éden, dans l'environnement de ta présence. Et devenir naturellement saint, naturellement pur, naturellement intègre, naturellement libéré de tout ce qui me retenait captif. Seigneur, c'est le jour du changement, c'est le jour de la métamorphose, c'est le jour de la transformation, c'est le jour de la visitation divine, c'est le jour où Dieu veut te relever. C'est le jour où Dieu veut te ressusciter, te ramener dans l'environnement de sa présence. C'est le jour où la mort spirituelle prend fin et la vie de Dieu commence. Zoé, c'est la vie de Dieu. Et lorsque cette vie entre en toi, quelque chose se passera, quelque chose se produira au plus profond de ton être. Alléluia. Oh, alléluia. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, je dis oui. Je dis oui, oui. Je dis oui,
je dis oui,
oui,
Seigneur,
oui à ton règne, Seigneur.
Je dis oui, Seigneur,
ta souveraineté.
Je dis oui,
je dis oui, je dis oui,
oui, oui.
Je dis oui, Seigneur,
je dis oui, oui.
Chante avec moi ce chant, mon frère, ma soeur. Et même toi qui es resté assis, chante ce chant
je
avec
moi.
Je veux faire quelque chose.
Oui.
Va être restauré, relevé, transformé. Je dis oui.
Je dis oui, Seigneur.
Quelqu'un sur le point d'être retourné complètement.
Je dis oui, Seigneur.
Quelqu'un sur le point d'expérimenter un attouchement divin ce matin.
Oui.
Oui. I say yes, Lord.
I say yes.
I say yes.
Yes.
I say yes.
Yes.
I say yes, Lord.
I say yes.
I say yes.
Yes,
I say yes,
yes,
I say yes, oh God Almighty,
I say yes. my Lord.
I say yes, my Lord.
I say yes, my Lord.
My Savior, my Lord.
I say yes.
I say yes.
Yes.
I say yes.
Yes.
Should he we?
Should he we?
Should he we?
We.
À ton influence.
We.
À ta présence. Seigneur, je dis oui.
Je dis oui.
À ta paix, Seigneur.
Je dis oui, Seigneur.
Oui, à ton influence dans ma vie.
Je dis
que
oui.
Que tu domines et que tu règnes,
oh, oui,
dans ma vie.
Oh, oui.
Je dis amen.
Je dis amen.
À ta parole.
Amen.
À ta présence.
Amen.
À ta sainteté.
Je dis amen.
À ta nature.
Amen.
À ta souveraine.
Amen.
À ton gouvernement, oh, dans ma
je
vie.
Je dis amen.
Je dis amen,
Seigneur.
Je dis amen, Seigneur.
Je dis amen, amen, amen.
Alléluia, mon frère, ma soeur, tu vas répéter après moi cette prière de foi, cette déclaration de foi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je dis amen à ta parole. Je te demande pardon, Seigneur, de m'être tenu à l'écart du jardin d'Éden, à l'écart de ta présence. Seigneur, ce matin, je me réconcilie avec toi. Je renonce à mon ancienne vie. Je renonce à la tricherie. Je renonce à la convoitise. Je renonce aux excuses. Je renonce à la mentalité de médiocrité, de désobéissance qui me retenait captive. Je dis oui à ton règne. Et ce matin, devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, je dis, s'il te plaît, règne, sature, inonde, déborde, envahis chaque aspect de ma vie dans le nom de Jésus. Et qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie ne soit plus jamais la même dans le nom de Jésus. Tu as commencé cette œuvre, aujourd'hui, tu l'achèveras. Je resplendirai, je brillerai, je reflèterai ta nature, tes attributs, ton caractère, tes œuvres, ta puissance, ta splendeur, ton éclat, ta gloire, au nom de Jésus. Je te dis merci et je le reçois ce matin par la foi, au nom de Jésus. Amen. Que
quelqu'un acclame. Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.